Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion, des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Aujourd'hui, pour ce deuxième numéro d'Antidote, j'ai choisi de vous parler d'un ouvrage de Christopher Lasch, « La culture du narcissisme ». C'est un ouvrage qui est paru en 1979 aux États-Unis et en 81 en France, et qui a été très opportunément réédité en 2000 par les éditions Climat. Alors pour les fidèles de Radio Bartas et de l'émission Marque-Page, vous vous souviendrez peut-être que je vous ai déjà parlé de Christopher Lasch. C'était en novembre dernier, en novembre 2014, et c'était à propos d'un ouvrage de dialogue entre Christopher Lasch et Cornelius Castoriadis, ouvrage qui était paru sous le titre de « La culture de l'égoïsme ». Vous pouvez facilement réécouter cette chronique sur le site de Radio Bartas à la rubrique Marque-Page du mois de novembre 2014. Alors ce premier ouvrage dont je vous avais parlé était conçu comme un dialogue, et donc c'était plutôt un ouvrage de vulgarisation. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer plus avant dans l'œuvre de Christopher Lasch. Alors d'abord, un petit mot de l'auteur. Il est né en 1932, mort en 1994. C'est un intellectuel américain qui s'est spécialisé en histoire et qui a fait, dès les années 60, l'histoire du radicalisme américain et qui a soumis à la critique les idéaux progressistes du libéralisme. Et comme tous ceux qui s'aventurent à critiquer la religion du progrès, il fut toute sa vie extrêmement controversé, tour à tour récupéré par la gauche ou par la droite. C'est justement pour cette liberté de ton qu'il me semble intéressant de relire aujourd'hui ce type d'ouvrage. Alors, l'œuvre de Christopher Lasch peut être divisée en deux parties. L'une est un diagnostic implacable sur la transformation de la personnalité sous le capitalisme consumériste. Et l'autre partie de son œuvre, je vous en reparlerai en fin d'émission de ces différents ouvrages, revisite un ensemble de vertus politiques susceptibles de guider la résistance à l'imaginaire de la consommation sans entrave. Alors, l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui fait partie du premier cycle de son œuvre, donc un diagnostic sur la transformation de la personnalité. Et en effet, l'auteur va nous parler de la personnalité narcissique que développent les hommes et les femmes dans notre société contemporaine. Et ce qui est intéressant avec Christopher Lasch, c'est qu'en nous parlant, donc je vous rappelle qu'il a été écrit en 1979, cet ouvrage, en nous parlant des USA dans les années 70, eh bien, il nous parle de l'Europe des années 90, voire plus tard, et que son propos est extrêmement d'actualité aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Alors, c'est pas très très simple hein, de parler de l'ouvrage de Christopher Lasch. Il nous faut quand même commencer à préciser de quoi il nous parle quand il nous parle de narcissisme. Il importe en effet d'être précis sur le plan théorique concernant le narcissisme, d'abord parce que l'idée peut être facilement manipulée à des fins moralistes, mais aussi parce que le considérer comme synonyme de tout ce qui est égoïste contredit l'évidence historique. En fait, l'égoïsme a toujours existé, le narcissisme aussi, mais la culture du narcissisme telle qu'elle a définie est très spécifique à notre époque. Alors voilà la définition qu'il en donne, donc qui va bien au-delà de l'égoïsme. Sa définition, c'est le fantasme humain de l'omnipotence et de l'indépendance absolue. Donc, comme je le disais, il ne s'agit pas d'un simple égoïsme qui existe dans toute société, un égoïsme où Narcisse s'aime lui-même avec assurance, mais il s'agit plutôt de saisir comment la société contemporaine produit de plus en plus d'individus fébriles et inaptes à accepter les résistances que la réalité oppose à leur désir de toute puissance. Alors, pour ce faire, Christopher Lasch va étudier l'évolution des pathologies psychiatriques depuis les travaux de Freud au début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et voilà ce qu'il nous en dit. La psychanalyse, thérapie qui s'est développée dans la pratique à partir de cas d'individus moralement rigides et sévèrement réprimés, ayant besoin de faire la paix avec un censeur interne rigoureux, se trouvent aujourd'hui de plus en plus souvent confrontés à des caractères chaotiques dominés par leurs pulsions. Donc on voit l'évolution de la maladie psychiatrique, dans notre société. Il nous dit par exemple, la dépression chez les sujets narcissiques prend la forme non pas de tristesse mêlée de culpabilité, comme l'avait décrit Freud, mais de rage impuissante et de sentiment de défaite par des forces extérieures. Alors, c'est à partir de cette constatation de l'évolution des maladies psychiatriques et donc de ces maladies davantage liées aujourd'hui aux pulsions que Christopher Lange nous dit que c'est important de garder à l'esprit donc ses origines cliniques du narcissisme, mais également l'idée, et ça c'est important, que le normal et le pathologique forment un continuum. En d'autres termes, ce concept nous donne un portrait passablement exact de la personnalité libérée, il met libérée entre guillemets, de notre temps. Donc à partir de l'évolution des malades psychiatriques, on voit aussi l'évolution de l'ensemble des comportements dans une société. Alors qu'est-ce qu'il nous en dit de ce portrait de cette personnalité libérée ? Il nous dit, avec son charme, la pseudo-conscience de sa propre condition, sa sexualité tous azimuts, sa fascination pour la sexualité orale, son hypocondrie, sa superficialité défensive, sa crainte de la dépendance, son incapacité à s'infliger de la peine d'autrui, sa terreur de vieillir et de mourir. Je pense que vous aurez retrouvé dans ces termes un certain nombre de tendances des comportements dans notre société. Et de fait, le narcissisme semble la meilleure manière d'endurer les tensions et anxiétés de la vie moderne. C'est donc comme une protection, en fait. Le culte des relations personnelles qui s'intensifie à mesure que s'éloigne l'espoir de solutions politiques cache un désenchantement profond vis-à-vis de ces relations. De même que le culte de la sensualité implique une répudiation de toute sensualité, excepté sous ses formes les plus primitives. L'idéologie du développement personnel, qui, comme vous le savez, fait florès dans notre société, qui est une idéologie a priori, à première vue, optimiste, irradie en fait résignation et désespoir profond. On foie en l'idéologie du développement personnel ceux qui ne croient plus en rien, et notamment aux solutions politiques. Alors, à partir de ces constats, Christopher Lange va donc développer une critique de ce que l'on appelle le progrès, et notamment le progrès sur le plan culturel. Alors je vous en donne quelques exemples, je vais me permettre de faire quelques citations de Christopher Lange, c'est peut-être comme ça que vous le comprendrez le mieux. Il nous parle par exemple de la famille. Il nous dit « Lorsque l'autorité familiale, incarnée par la figure psychanalytique du père, se trouve sapée par un discours anti-autoritaire, qui voit dans l'absence de conflit la promesse de la plus grande autonomie humaine, ce qui advient n'est pourtant pas cette autonomie réelle, mais un rabougrissement de la personnalité qui conduit au narcissisme. » Et un peu plus loin, « En considérant le conflit avec les parents comme un épisode dépassé de l'histoire de la famille, les experts pédopsychiatres, conseillers psychologues et autres professions s'étant accaparés les fonctions ordinaires des parents, ont à l'inverse totalement ruiné la crédibilité de ces derniers. » Donc beaucoup de réflexions sur la question de la famille qu'on retrouve dans un autre de ses ouvrages d'ailleurs, dont je vous parlerai tout à l'heure. En parlant du travail cette fois, il nous dit « Dans les rapports de travail, il s'agit de plus en plus de faire valoir une image de gagneur pour s'attirer les faveurs temporaires des membres d'un réseau nécessaire à la réussite individuelle, au lieu de cultiver un savoir-faire de métier. » Et il nous parle également du rapport entre les sexes. Il nous dit « L'engagement, le lien et le conflit sont de plus en plus fuis comme d'intolérables atteintes à la gestion hédoniste de sa propre vie. » Sur le sport, il nous dit « L'exaltation de la concurrence est d'emblée comprise sous la domination progressive de l'éthique managériale comme une incitation à écraser l'adversaire au lieu de le respecter. » dans le rapport à la nature. L'attitude de l'homme aménageur explorant la nature davantage qu'il ne la conquiert cède le pas devant les attitudes complémentaires de l'exploitation technique prométhéenne et de la fusion spirituelle New Age. Enfin, il va nous parler de la consommation. Placé devant un ensemble de marchandises qu'il n'a pas produites et dont il ne saurait imaginer le parcours pour terminer dans les vitrines des allées commerçantes des centres urbains, le narcisse contemporain succombe nécessairement au fétichisme marchand. Alors on le voit, à chaque fois, dans tous les domaines, on peut retrouver le sens de la consommation comme destruction. Autrement dit, l'incapacité d'accepter un état de dépendance et d'échec où les autres et la nature ne seraient pas de simples projections des désirs d'omnipotence du sujet narcissique. C'est vraiment le propre du narcissisme. Enfin, Christophe Lage nous parle de la démocratie dans le contexte culturel actuel. Il nous dit « Les valeurs du narcissisme propres aux classes moyennes mais promues par les élites progressistes ». Les membres de la finance, des agences de relations publiques, du monde des technologies de l'information, éditeurs, universitaires, personnalités du spectacle, journalistes, etc., se sont suffisamment répandus pour saper totalement le mode de vie démocratique. Et il nous dit plus loin, la passivité intégrale requise par le fonctionnement parlementaire de la démocratie se double par ailleurs de l'acceptation d'une éthique visqueuse de la tolérance, où tout un chacun se voit invité à montrer sa différence propre dans un univers bariolé où tous les avis, toutes les mœurs et tous les comportements sont acceptés tant qu'ils ne nuisent pas à autrui. Alors vous voyez, c'est la richesse de cet ouvrage, hein, chaque phrase, chaque exemple donne énormément d'idées, de réflexions, de pistes de réflexion. Je voudrais vous citer un petit morceau d'un ouvrage. Alors c'est aussi un ouvrage dont je vous ai parlé déjà dans une chronique de Marc Page. C'est l'ouvrage « Radicalité, 20 penseurs vraiment critiques ». Dans cet ouvrage, il y a un chapitre sur Christophe Lage. Et voilà comment l'auteur qui est, je vais vous dire son nom, l'auteur de cette chronique, c'est Renaud Garcia qui a écrit la partie sur Christophe Lage. Et voilà comment il termine cet article sur Christophe Lage. Parmi les mouvements sociaux récents, encouragés par les forces de gauche, nul doute que les revendications se fondant sur l'aspiration universelle à la reconnaissance figurent en bonne place. Dans les divers cas de l'antiracisme, de l'antisexisme, de l'anti-homophobie, de l'anti-transphobie, de l'anti-végéphobie ou encore de l'antispécisme, quelle est néanmoins la part de radicalité véritable et la part de fausse conscience? En demandant d'être toléré et d'accéder aux mêmes valorisations que les autres individus dans le même monde, ces mouvements ne donnent-ils pas ensemble la preuve que le système économique et politique est globalement insatisfaisant, ne requérant que des ajustements dans ces cas particuliers? Si Christophe Lage revenait parmi nous, il soupçonnerait très certainement ces nouvelles formes de contestation de dépendre de la psychologie narcissique, selon laquelle le statut de la victime donne droit à tout, sans que l'on ait besoin de s'interroger sur son implication personnelle dans le système économique au sein duquel on souhaite être reconnu. Il leur opposerait probablement l'attitude d'un Martin Luther King, ayant toujours veillé à la discipline spirituelle contre le ressentiment au sein du mouvement pour les droits civiques, de manière à ne pas faire de l'expérience de l'oppression le prétexte d'une supériorité morale. L'ultime défi de Christophe Lage à l'égard de l'optimisme progressiste tient certainement dans son insistance sur la vertu de l'espérance. Et je ne vous ai pas cité le sous-titre de la culture du narcissisme, mais le sous-titre c'est c'est la vie américaine à un âge de déclin des espérances. Donc il parle, voilà, il y a cette question d'espérance qui revient, alors qu'il peut être vu comme un terme religieux, mais dans tous les cas qui est important dans la philosophie de l'âge. Donc cette vertu de l'espérance, c'est une confiance dans le monde qui sait se mesurer à la souffrance et tire de cette confrontation une colère généreuse face à toute tentative d'escamotage des limites de l'homme. Face au déni de la réalité qu'impose une culture de la consommation et du désir illimité, l'âge revendique l'acceptation du monde objectif et la nécessaire conscience de notre impuissance à le remodeler selon nos désirs. C'est dans la réflexion sur cette dimension conflictuelle de notre liberté que se recrée l'espérance du changement social. En effet, et là je cite Christopher Lasch, seule une compréhension de l'âpreté de la vie peut justifier les sacrifices qui s'imposent à ceux qui cherchent à défier le statu quo. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur Christopher Lasch et notamment sur cet ouvrage La culture du narcissisme. Alors pour ceux qui ont écouté la première chronique d'Antidote où je vous ai parlé de l'ouvrage d'Olivier Rey, Une folle solitude, vous retrouverez certainement des thèses assez proches. Et Olivier Rey d'ailleurs se revendique de Christopher Lasch. Il me semble en effet important de se laisser déranger dans nos certitudes sur ce type de questionnement. Et la prochaine rubrique que je vous proposerai sera d'ailleurs un peu une suite, puisque je vous parlerai d'un ouvrage de Miguel Benassayag et Angélique Del Rey, L'éloge du conflit. Et vous avez entendu parler de l'éloge des conflits déjà par Christopher Lasch. Il est important aujourd'hui de relire l'œuvre de Christopher Lasch, même, il faut le dire, s'il faut un peu d'effort pour entrer dedans. Mais elle nous permet de prendre du recul par rapport à des évidences et aussi, et ça c'est important, je n'ai peut-être pas suffisamment parlé, à reconsidérer, à revaloriser la culture populaire, trop souvent caricaturée comme une culture du bof. En cela, Christopher Lasch rejoint également les thèses de George Orwell, par exemple. Alors, pour faire cette chronique, d'abord je me suis donc beaucoup appuyée sur cet ouvrage « Radicalité, 20 penseurs vraiment critiques » qui est paru aux éditions de L'Échappée et donc dans lequel il y a un long article sur Christopher Lasch. Donc à lire de Christopher Lasch, donc, le livre dont je viens de vous parler, « La culture du narcissisme, la vie américaine à un âge de déclin des espérances ». Également « Le moi assiégé », essai sur l'érosion de la personnalité. Le seul et vrai paradis, une histoire de l'idéologie du progrès et de ses critiques. La révolte des élites et la trahison de la démocratie. Un ouvrage également sur la famille, un refuge dans ce monde impitoyable, la famille assiégée, qui est un ouvrage un peu plus complexe à lire. Un ouvrage très intéressant qui reprend le dernier point que j'ai souligné, c'est culture de masse ou culture populaire. Également, notre ouvrage « Les femmes et la vie ordinaire ». Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite bonne lecture. À bientôt.